désirons poursuivre le sujet que nous avons commencé l'autre soir et lire ensemble au livre des Nombres, quelques versets que nous lirons au chapitre 16e.
Nombre, chapitre 16, versets 36 à 40. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, qu'il relève les encensoirs du milieu de l'incendie, et répands-en le feu au loin, car ils sont sanctifiés. Les encensoirs de ceux-là qui ont péché contre leurs propres âmes. Et on en fera des lames aplaties pour en plaquer l'autel, car ils les ont présentés devant l'Éternel, et ils sont sanctifiés. Et ils seront un signe aux fils d'Israël. Et Éléazar le sacrificateur prit les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les hommes qui furent brûlés, et on les aplatit pour plaquer l'autel en mémorial pour les fils d'Israël, afin qu'aucun étranger qui n'est pas de la semence d'Aaron ne s'approche pour brûler l'encens devant l'Éternel et ne soit comme Corée et son assemblée, selon que l'Éternel lui avait parlé par Moïse.
Nous avons vu l'autre soir, chers amis, que Dieu a des droits fondés sur la rédemption, afin qu'il acquière pour lui un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Lorsqu'Israël est sauvé, délivré de l'esclavage d'Égypte, Dieu dit à Moïse, « Sanctifie-moi, mets-moi à part tout premier-né de ce peuple, car il est à moi. » Mais en lieu et place des premiers-nés de chaque famille d'Israël qui avait ainsi échappé au jugement, grâce au sang qui avait été répandu, le sang d'un agneau, à l'égard duquel Dieu avait dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » En lieu et place de chaque premier-né dans chaque famille, Dieu a pris la famille de Lévi, la tribu de Lévi, à la place de ceux-là, une des 12 tribus d'Israël qui est ainsi particulièrement privilégiée et considérée comme représentant d'Israël dans ce qu'elle avait de meilleur dans sa vigueur. Dieu, nous demandant tout notre cœur, tout ce que nous sommes, ces droits sont fondés sur la rédemption, sur l'amour. Mais quel maître que notre Seigneur Jésus-Christ, quel bon, précieux et doux maître. Nous avons remarqué une scène extraordinairement saisissante l'autre soir. Les fils d'Aaron sont quatre, car la famille d'Aaron, au milieu de la famille de Lévi, jouit de privilèges encore plus élevés. Et nous nous en rappelons, disons-le encore rapidement en passant, elle représente pour nous, cette famille d'Aaron, ce que nous sommes aujourd'hui. Une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car en effet, la famille d'Aaron, au milieu de cette grande famille de Lévi, était privilégiée dans ce sens que c'est elle qui approchait de Dieu, qui entrait dans le tabernacle et qui avait affaire aux saints ustensiles et en particulier qui offrait l'encens sur l'autel. Lors de la consécration des relations de Dieu avec Israël, au commencement du Lévitique au chapitre 9, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste sur l'autel, Dieu montrant ainsi l'approbation qu'il éprouvait à l'égard de ce sacrifice en vertu duquel il pouvait recevoir Israël, image si saisissante du sacrifice du Seigneur en vertu duquel Dieu peut recevoir le pécheur dans sa présence. Dans cette occasion, les deux fils aînés d'Aaron ont pris un feu étranger. Au lieu de prendre le feu que l'Éternel lui-même avait allumé à l'autel, ont présenté un feu étranger dans leurs encensoirs. Et nous avons vu une scène dramatique, solennelle entre toutes, le feu alors descend du ciel, comme il était descendu en approbation du sacrifice, il descend en jugement pour consumer les deux fils d'Aaron. Et il n'est pas sans intérêt de souligner que dans ce même chapitre, Dieu commande à la famille sacerdotale sacerdotale de s'abstenir de vin et de boissons fortes. Autrement dit, de tout ce qui excite la chair dans la présence de Dieu. Car le culte que ces deux fils aînés, d'Aaron, Nadab et Abihu, avaient présenté était un culte imaginé par eux, selon la chair. Et nous tirions la conclusion, et elle est tout à fait rationnelle, pensons-nous qu'aujourd'hui, Dieu soit moins sensible à l'égard d'un culte qui n'a pas le Père pour objet, qui n'a pas le Seigneur Jésus comme centre et comme sujet glorieux, comme agent, l'Esprit Saint et comme terrain, l'obéissance à l'Écriture, car nous ne sommes pas laissés à notre imagination pour rendre culte. Dieu l'a prévu dans tous ses détails. Pensons-nous que Dieu soit moins sensible aujourd'hui à l'égard d'un culte que nous avons imaginé, si bien décoré soit-il? Chacun peut répondre à la question. Nous avons vu alors qu'Éléazar se trouve là, le troisième fils d'Aaron, deviendra le successeur de son père, puisque ses deux frères aînés sont morts, et Moïse va s'emporter contre lui et contre son frère en disant, mais vous auriez dû manger le sacrifice pour le péché. Nous n'entendons pas un seul mot dans la bouche d'Éléazar, écrasé qu'il est par la douleur, impressionné par ce jugement solennel, il ne répond pas d'un mot à Moïse. C'est Aaron, leur père, qui prendra leur défense. Et Moïse, pitoyable, en voyant la détresse de ce père, en voyant les sentiments qu'ils éprouvent, en présence d'un si grand deuil, Moïse n'insistera pas et il trouvera bon qu'il en soit ainsi. Malgré la faiblesse qui les caractérise, ne s'étant pas élevé à la hauteur de la fonction et des devoirs de leur sainte sacrificature. Éléazar devient, au-dessus de toutes ces deux familles de Lévi, qui se partagent en trois grands groupes, les fils de Gershon, Kehath et Merari, il y avait un prince dans chacune de ces grandes familles, Éléazar est choisi pour devenir le prince des princes. Et nous nous sommes arrêtés quelques instants sur ce titre extraordinaire, prestigieux, qui évidemment nous fait tourner vers celui qui tout à l'heure apparaîtra comme le roi de roi, le prince des rois de la terre, devant la grandeur duquel, devant la gloire duquel, tous les plus grands rois devront se prosterner. Il faut qu'il règne. Ah, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fallait qu'il devienne ce que nous aurions dû être sous le jugement de Dieu pour que nous devenions ce qu'il nous a accordé d'être en vertu du sacrifice de lui-même. Mais son rejet par le monde, son humiliation suprême sur la croix n'a pas abrogé un seul de ses droits. Et nous avons remarqué qu'il avait trois titres prestigieux à la domination de l'héritage que Dieu a placé sous ses pieds, tant au ciel que sur la terre. Et il faut qu'il règne comme prince, comme roi des rois, comme prince des rois de la terre. Dieu avait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et tout à l'heure, il apparaîtra à la stupeur, à l'effroi de tous ceux qui le verront, car tout œil le verra. Maintenant, après avoir considéré le prince des princes et l'avoir considéré non seulement dans sa gloire officielle, mais dans sa gloire comme fils de l'homme et dans sa gloire comme chef de l'assemblée, nous avons vu la fois dernière que tout était placé sous l'autorité et la direction d'Éléazar. Nous ne sommes pas en direction pour rendre culte. L'huile de luminaire, l'huile de l'onction, l'encens, tout était placé sous l'autorité de ce prince des princes qui régissait ainsi tout le culte de l'Éternel. Comme l'Église est soumise à Christ et comme nous rendons culte sous la direction du Saint-Esprit dans la présence du Seigneur, le présentant toutes ses gloires au Père. Dans la scène que nous abordons ce soir, deux très grandes scènes, il s'est passé quelque chose d'extraordinairement grave au sein de la famille d'Israël. Deux personnes de la famille de Ruben et un homme de la famille de Lévi, les deux premiers estimant que, étant donné qu'ils appartenaient à la famille du premier-né, de Ruben, qu'ils avaient bien le droit d'accéder à des honneurs particuliers et qu'auraient, par cet esprit niveleur qui s'élève et qui se voit supérieur à ses égaux, trouve que ce qu'Aaron possède comme droit devrait lui être attribué et entraîne à sa suite une grande révolte au milieu du peuple. Or, nous savons que l'élément religieux prime toujours dans le mal. C'est une constatation que J.N.D. ne manque pas de faire dans des commentaires très, très précieux. L'élément religieux prime toujours dans le mal. En effet, dans l'épître de Jude, nous avons comme avertissement solennel une relation de ces faits que nous lisons maintenant dans Nombre 16. Et ce Corée est cité en même temps que deux autres personnages de l'Ancien Testament. Et à eux trois, ils constituent un enseignement des plus sérieux, des plus solennels. Il y en a d'abord Caïn, le péché dans la nature. Le premier, c'était Adam, le péché contre Dieu. Chez Caïn, c'est le péché contre son frère, inaugurant déjà à la sortie du jardin d'Éden le grand drame qui aurait lieu à la croix. Pourquoi Caïn tue-t-il son frère? Parce que les œuvres de son frère étaient justes et que les siennes étaient mauvaises. C'est l'homme religieux qui prétend pouvoir offrir à Dieu un culte que Dieu doit accepter, qu'il est bien digne, qu'il a bien des capacités, des facultés propres à être accepté de Dieu. Abel, au contraire, se repose sur l'œuvre de la croix, réalise qu'il ne peut rien offrir à Dieu, que quelles que soient les prétentions de l'homme, tous ont péché, nul n'atteint à la gloire de Dieu. Quelle que soit son éducation, quels que soient ses antécédents, leçon des plus importantes est bienheureuse lorsqu'elle est reçue par quelqu'un, bienfaisante et bienheureuse, Abel l'a compris. Caïn, le premier homme meurtrier de son père. Balaam, lui, il estime que la piété est une source de gain. C'est le deuxième qui est cité. Ils ont marché dans le chemin de Caïn. Jude dépeint l'apostasie naissante de son temps, le mystère d'iniquité qu'il opérait déjà et qui est en train de se terminer et qui va aboutir à la manifestation publique de ces deux hommes dont nous avons déjà parlé, l'homme de péché en particulier, l'Antichrist, celui que le monde attend. Ils ont marché dans le chemin de Caïn, ont glissé alors dans la faute de Balaam et ont péri, dit la faute, ont péri dans la contradiction de Corée. Cela c'est pour demain. Celui qui s'arroge des droits aux dépens d'Aaron et au mépris d'Aaron. Chose extraordinaire, Moïse a invité tous ceux qui étaient compromis à s'écarter de ces méchants hommes, et 250 d'entre eux qui sont restés groupés autour de Corée ont péri par le feu qui tombe du ciel. Ainsi, chers amis, ce n'est pas très populaire, mais ainsi va finir la civilisation dont les hommes se vantent tant aujourd'hui, la civilisation chrétienne. Et elle dira, ce Corée plein d'orgueil, « Je suis assise en reine, dira-t-elle, je ne suis point veuve, et je me confie en tout ce que j'ai amassé, tout ce que j'ai accumulé, toute l'influence mondiale que j'ai réussi à exercer sur les nations les plus puissantes, et j'ai acquis de l'or et de l'argent, de l'écarlate, des pierres précieuses, rien ne me manque. Mais autant elle a été dans l'église, autant elle sera plongée dans le deuil et dans l'effroyable désastre qu'elle va connaître lorsque ceux avec lesquels elle s'est prostituée, ce sont les Dirois qui vont la brûler au feu. Le mal que nous commettons porte en soi son propre correctif, porte en soi déjà les éléments primaires du jugement que nous devons connaître. Il y a donc, chers amis, une scène devant nous, très solennelle, c'est une scène à laquelle nous faisons bien d'être attentifs, et vous voyez, elle porte nos regards bien au-delà du passé pour découvrir devant nous ce qui est un danger mortel. Et nous le savons bien, ceux qui se disent être juifs, ceux qui ont des prétentions, fera dire, exerce toujours l'opposition, exerce toujours une persécution sous une forme ou sous une autre à l'égard de ceux et contre ceux qui désapprouvent ce système en se séparant. C'est inévitable cela. C'est l'inévitable conflit entre les ténèbres et la lumière. Ils m'ont haï des petits avant-goût, dit le Seigneur. Et ils m'ont haï parce que j'étais dans la lumière et que je mettais en pleine évidence les motifs, le mal qu'ils commettaient. L'associant, le commettant au sein des ténèbres, que le Seigneur mettait de côté pour montrer ce qu'ils étaient. Ce qui fera dire à quelqu'un de nos chers devanciers, ne l'oublions jamais, quels sont les pires ennemis du fidèle, les plus amers ennemis du fidèle. Ce sont ceux qui prétendent l'être et qui ne le sont pas. Ceux qui tiennent à une continuation historique, qui prétendent être la continuation historique de ce que Dieu a établi un jour. Mais quelle est l'identité morale entre ce que l'on prétend être la continuation historique? Quelle est l'identité morale entre ce qui tombe sous nos yeux aujourd'hui, ce qui est en train de se forger, d'être amené à son point final? Quelle est l'identité morale avec la chambre haute à Jérusalem? Depuis la chambre haute à Jérusalem, nous ne craignons pas de dire le mot jusqu'à Rome, jusqu'à la ville aux sept collines, et ce qui aura lieu, ce qui sera visible demain et qui se prépare aujourd'hui, y a-t-il une quelconque identité morale? Le feu descend sur Corée et sur ceux qui lui sont associés. À qui l'Éternel va-t-il s'adresser pour agir au milieu d'une scène aussi solennelle? Éléazar a déjà vu ses deux frères couchés par terre par le feu. Maintenant, il y en a 250, et c'est toute sa famille. Vous voyez quel homme remarquable. Dieu a confiance en lui. Dieu sait bien qu'il peut lui demander cela. Qu'il y a dans son cœur le souci de la gloire de Dieu. Qu'il est un vrai lévite, qui n'a pas connu ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses fils. Que les droits de Dieu, que la sainteté de Dieu, que la gloire de Dieu passe avant tous ses sentiments naturels, si légitimes soient-ils. Et quel que soit le brisement de son cœur, au-dessus de ses sentiments, il y a la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, dis à Éléazar de ramasser ses 250 encensoirs. C'est à lui que j'ai confiance pour manifester ma gloire au milieu de ce peuple et montrer que la place qui est réservée au mal, que le jugement du mal, que l'appréciation que je fais du mal, il est en rapport avec l'autel des reins. Il faut aplatir ces encensoirs et en faire des lames avec lesquelles on va plaquer l'autel des reins. Demain, chers amis, le monde connaîtra que le jugement de Dieu est une chose réelle, solennelle, et qu'il est en rapport avec l'autel des reins, selon le jugement qu'il a porté à la croix, qu'il a dû porter dans toute son intensité, sans que rien soit atténué ni amoindri. Mais Dieu se servira demain du reste de sa colère. Elle est tombée sur lui pour que nous en soyons épargnés, espérant que chacun ici peut dire, eh bien, grâce lui soit rendue. Il a été mon substitut sur la croix. Je ne viendrai pas au jugement. Il est tombé sur lui. Mais pour ceux qui ont bouché leurs oreilles, fermé leur cœur, il se servira du reste de sa colère. Et le jugement sera selon la mesure des chérubins tendant leurs ailes dans le lieu saint, un côté de largeur, exactement la mesure du lieu très saint de la maison, pour revendiquer les droits de la gloire de Dieu à l'égard du mal qu'il voulait effacer, qu'il voulait pardonner en vertu du sang de la croix. Mais si quelqu'un doit paraître devant Dieu, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. En voici un exemple solennel. C'est Éléazar qui est donc choisi pour prendre tous ses encensoirs, et après qu'on les a bâtis pour montrer aux générations d'avenir comment Dieu avait jugé le mal qui s'élevait contre Aaron, et au-delà d'Aaron, Dieu nous montrant comment il va juger le mal contre tout ce qui s'élève dans sa maison au mépris et au dépens de l'autorité et de la gloire de son fils. Et celle qui enseigne, qui prétend qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, nous devons bien dire la vérité. Et que l'on vient à Christ par l'Église, ce qui est absolument faux. On vient à l'église par Christ, mais pas l'inverse. Celle qui s'arrange de ses droits, voilà la fin qui l'attend. Et nombre 16 est un passage solennel bien parallèle à ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17 au chapitre 18. Nous voulons bien, chers amis, nous voulons bien qu'il y ait d'autres applications à faire et qu'il y ait d'autres vérités encore, mais nous n'avons pas la possibilité de traiter tous les sujets, nous n'en avons pas la capacité d'ailleurs, mais nous nous sentons pressés dans un jour où on nous invite à nous identifier avec Corée, chère jeunesse. Avec qui voulez-vous, à qui voulez-vous donner la main? À Corée ou à Eléazar? Voyez, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Voici 35 siècles que ces faits se sont produits. Et n'ont-ils pas aujourd'hui un cachet d'actualité extraordinaire? Ne nous semble-t-il pas, en lisant cette scène, que nous la vivons aujourd'hui? La parole de Dieu est un livre vivant. Là devant nous, une scène d'un caractère hautement actuel, car on nous invite à faire comme Corée, au nom de la science, au nom du développement de la pensée humaine. À quoi bon? Mais c'est suranné d'encore s'en tenir à ce que vous retenez, mais vous devenez ridicule. Mais l'évolution et les découvertes que nous avons faites, tout le développement de la science humaine ne nous permet plus de nous en tenir à ce qui est ancien, à ce qui est vieillot. Il faut nous débarrasser de cela. À qui voulez-vous donner la main, cher Hermès? À Corée? C'est un homme religieux, Corée. Ce n'est pas un athée. Mais c'est un homme qui s'élève et qui, par la religion, veut dominer et prendre en quelque mesure la place de Christ. Les droits que Christ a sur nous, veut les mettre de côté à son profit. À qui voulons-nous donner la main? À Corée ou à Eléazar? Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Dieu nous a conservé cette histoire. Nous nous inclinons devant la fidélité, la piété d'un homme. Un homme jeune encore comme Eléazar, qui malgré toute l'obscurité qui envahit la scène, la détresse qui le remplit, le chagrin qui noie son cœur, à la gloire de Dieu devant lui et au-dessus de tout. Nous ne l'entendons pas dire un mot, il obéit, il s'incline, il agit exactement comme Dieu s'attendait qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Quel exemple que celui-là. Nous ne parlons pas souvent des Eléazar, mais il a bien droit à l'audience au milieu de nous, car ce n'est pas le seul fait que nous lisons de lui qui mérite notre intérêt. Nous ne pouvons pas nous attarder, sinon il faudrait bien plus que 3 ou 4 réunions. Nous passons, si vous voulez bien, à une scène suivante, c'est dans le chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron disant, c'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant, parle aux fils d'Israël et qu'il t'amène une génisse sans tare, qui n'est aucun défaut corporel et qui n'est point porté le tout. Et vous la donnerez à Eléazar, le sacrificateur. Et on l'égorgera devant lui. Eléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang 7 fois droit devant la tente d'assignation. Et on brûlera la génisse devant ses yeux, on brûlera sa peau et sa chair et sa viande. Le sacrificateur prendra du bois de sel et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu pour brûler la génisse. Ensuite, verset 9, et un homme dur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp d'un lieu dur et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme une eau de séparation. C'est une purification pour leur péché. Le livre des nombres et le livre du désert. Dans l'institution des sacrifices, à partir de l'Holocauste jusqu'au sacrifice pour le délit, dans le livre des Lévitiques, le livre des sacrificateurs, nous ne trouvons pas mention de la génisse. C'est la provision pour le désert. Les sacrifices auxquels nous faisons allusion dans le livre des Lévitiques parle de Dieu, de l'appréciation qu'il a de tout ce que Christ a été dans sa sainte et adorable personne et dans la valeur infinie de son sacrifice, tout entier offert sur l'autel pour la gloire de Dieu, en parfaite obéissance à Dieu, juste pour le sacrifice, pour le délit, qui répond aux besoins du pécheur devant Dieu.
Mais nous ne trouvons pas le sacrifice que nous avons ici de la ministre. Ce n'est pas un sacrifice pour des péchés proprement dit, mais c'est le sacrifice qui répond au désert pour les fautes que nous commettons, non pas tant par erreur, mais par négligence. Car en effet, nous sommes au désert et Dieu le sait, nous contractons si aisément, si facilement de la souillure. Mais cela ne doit pas être un oreiller pour nous dire, eh bien Dieu sait que nous sommes caractérisés par la faiblesse, par l'infirmité, et nous pouvons ainsi être insouciants. Pas du tout. Un péché commis pour Dieu, que ce soit par erreur, que ce soit par inadvertance, que ce soit de toute autre manière, est un péché. Et un péché pour Dieu est une chose de la plus haute gravité. Ce que nous appelons chose banale, chose légère, Dieu l'appelle souillure, Dieu l'appelle péché, et il nous montre l'horreur qu'il en a. Nous nous plaçons devant la croix. Et dans une relation si douce avec le Père, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous devenons enfants de Dieu par la foi, en l'œuvre. Que Christ a accompli en notre faveur sur la croix. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Mais ce sacrifice répond donc aux souillures que nous contractons au désert afin que nous en soyons purifiés. Et l'enseignement de ce chapitre, entre autres, nous montre que nous perdons si facilement la communion avec Dieu qu'il ne peut être réalisé que dans la lumière. Nous la perdons très aisément et nous la retrouvons très malaisément. Car il fallait faire l'application de cette eau de purification deux fois. Le troisième jour, sur celui qui avait commis une imprudence, qui avait touché un mort, soit un cadavre, soit un homme tué par l'épée, les deux grandes formes du mal dans le monde, la corruption ou la violence. Les deux grandes familles du mal. Le péché qui se traduit de cette manière par la corruption d'une part, la violence d'autre part. Faut-il insister sur ces bêtes qui aujourd'hui remplissent la terre et qui remplissent la terre et qui sont un sujet d'appréhension extrême pour les hommes encore un peu raisonnables. Alors nous avons dans cet enseignement la nécessité de passer, de recevoir l'application, non pas du sang. Le pécheur a besoin du sang. Mais le croyant a besoin de l'eau de la purification, c'est-à-dire l'application de la parole de Dieu que l'Esprit fait à notre conscience en nous montrant que ce mal que nous avons commis, en le précisant dans notre conscience, est un mal qui a coûté les souffrances expiatoires à notre bien-aimé et adorable Sauveur. Et le premier effet de l'office d'avocat du Seigneur pour nous auprès du Père, mettant sa main d'une part sur notre pied, souillé dans le désert, et l'autre main sur le trône du Père, disait quelqu'un, le premier effet de cet office du Seigneur, c'est de faire peser sur notre conscience le mal que nous avons commis, afin que nous en demandions pardon, non, afin que nous le jugions devant lui dans la lumière et que nous l'abandonnions. C'est le chemin de la restauration. Ne demeurons pas avec un boulet très traînant à nos pieds. Car nous répétons pour Dieu, un péché est un péché, et un péché toujours présent. Il n'y a pas de prescription pour Dieu. Ne pensons pas d'un instant que Dieu peut oublier une faute que nous avons commise. Ne la prenons pas comme un coup. Mais il y avait une ressource. Le troisième jour et le septième jour, l'application de l'eau de purification. Et comment la chose se faisait-elle rapidement? Vous voyez? Le Seigneur est donc maintenant remplissant ce saint office de la sacrificature. Et en même temps, l'office d'avocat. Et nous disions d'ailleurs tout à l'heure que nous n'avons pas le droit d'être insouciants, car Jean dira, dans son épître, chapitre 1er, rencontrera deux arguments qui remplissent aujourd'hui la chrétienté. Nous n'avons pas péché. C'est une vieille affaire et il ne faut plus nous agacer avec cette question. C'est stupide de venir encore nous parler de choses semblables. Nous n'avons pas de péché en nous et nous n'avons pas péché. C'est ce que Jean affirme, les théosophes du jour et les propres justes, voilà leur langage. Mais, dit Jean, s'il en est ainsi, on pourrait tirer la conclusion, mais puisque nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché en nous et que nous n'avons pas péché, Il ne faut pas être tellement rigoureux, tellement attentif. Mais je vous écris ces choses, dit Jean, afin que vous ne péchiez pas, ne vous emparez pas du fait que vous avez le péché en vous pour le traiter légèrement, car Dieu a montré comment il le traitait le péché. Et nous en avons fini. Nous n'avons pas la nécessité de pécher, car nous en avons fini. Comment en a-t-on ? Le corps du péché a été amené à la croix. Il faut le réaliser pratiquement, il faut le croire et le réaliser pratiquement. Alors nous en revenons à cet office du Seigneur comme sacrificateur ou comme avocat, fondé sur le sacrifice de lui-même. Hébreux 2 nous montre quatre raisons de l'abaissement et de la mort du Seigneur. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et souverain sacrificateur. Ayant fait par lui-même la purification des péchés, la propitiation, il est devenu ce grand souverain sacrificateur. La sacrificature est basée sur le sacrifice de lui-même. Et vous voyez la beauté du titre, car ce n'est pas Éléazar qui égorge la victime. L'office d'Éléazar est subséquent à la mort de la victime, comme le titre est précieux. On a égorgé la victime devant Éléazar, et lui intervient ensuite pour constituer cette eau de purification afin qu'elle soit appliquée là où elle était nécessaire. On égorgeait le sacrifice, et Éléazar bien conçu. Ce n'est pas Éléazar qui exerce cet office d'égorger la victime. Christ lui a été en fait et en effet glorieusement la victime et le sacrificateur, mais il n'était pas possible qu'il en soit ainsi pour Éléazar. Il n'est qu'une figure, un type atténué de la gloire du Seigneur. Alors, on prenait une eugénie sur son corps. Le passage, quelquefois, on va rassurer le lecteur. Pourquoi une eugénie sur son corps ? Dans l'original, nous citons des croyants, des frères très instruits qui peuvent apprécier la langue sérige dans l'original, nous disent Adam est l'équivalent de terre rouge. Quand nous avons le Seigneur montré dans l'exercice du jugement, dans un cas précis, lorsqu'il s'occupe des empires, dans le livre de Zacharie le prophète, il est monté sur un cheval roux. Le cheval roux qui exerce le jugement à l'égard du premier empire gentil, à l'égard de Nebuchadnezzar. Et l'exercice de ce jugement a apaisé l'Esprit de Dieu à l'égard de cette nation qui s'était montrée si cruelle envers son peuple. Il lui avait donné une verge en main. Mais Dieu châtie celui qui a tenu la verge avec des sentiments si mauvais dans son cœur, heureux de faire souffrir, d'assujettir ce pauvre peuple. Dieu dit, tu vas voir, Nebuchadnezzar, ce que c'est que la vengeance de mon temps a pu trouver du plaisir à faire trembler la maison dans laquelle j'avais placé ma gloire. Tu vas voir ce qu'est la vengeance de mon temps. Et il est monté pour exercer ce jugement sur un cheval roux. Et quand il va apparaître tout à l'heure, en venant de Bostra, en venant d'un endroit sinistre, où il va exercer un jugement sanglant, on va lui dire, mais quels sont, comment se fait-il que tes vêtements sont tout rouges, la génisse rousse, comment se fait-il que tes vêtements sont tout rouges de sang? Eh bien, dira-t-il, le sang de mes ennemis, il a rejailli sur moi. Quel spectacle impressionnant lorsqu'il apparaît couvert du sang de ses ennemis. Alors que son sang, lui, a été répandu pour des ennemis, pour des coupables. Mais lorsque la porte de la grâce sera fermée, ce sera alors le juge des vivants et des morts, juge inexorable, et qui mettra chaque chose à sa place, appellera chaque chose par son nom. Une génisse rousse, il a voulu en grâce devenir ce que nous étions, devenir ce que nous devions être sous le jugement de Dieu, afin que nous devenions ce qu'il est maintenant dans le ciel, nous donnant une place avec lui dans la maison de son Père, lavé dans son sang précieux. C'est Éléazar, le sacrificateur, qui s'occupe de cette scène, de cette disposition si importante dont nous avons tous besoin au désert, c'est-à-dire la purification nécessaire, pratique, afin d'être gardé dans la communion avec le Père et avec le Fils, et afin d'être heureux ensemble, car nous le savons fort bien, chers amis, nous ne pouvons pas être heureux sans que nous marchions dans la lumière, sans que nous jugions le mal, sans que nous le traitions comme Dieu le traite. Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette leçon, mais elle est claire pour chacun de nous, elle est sérieuse, elle est solennelle, mais nous sommes là devant la parole de Dieu qui nous parle sérieusement, solennellement, pour notre bien. afin, dans le passage précédent que nous avons lu, je reviens encore sur cette expression en disant ce que je viens de dire, afin qu'aucun étranger qui naît de la semence d'Aaron ne s'approche pour brûler de l'encens. Il faut être de la semence d'Aaron, d'abord pour faire brûler de l'encens, et en même temps, il faut être purifié pratiquement. Il fallait que les fils d'Aaron aient sur eux l'aspersion de l'huile, l'onction de l'huile sans doute, et en même temps, l'aspersion du sang sur eux-mêmes, sur le long de l'oreille, sur le pouce, sur le bord d'orteil du pied et sur leurs vêtements. C'est-à-dire que notre entendement, notre activité, notre marche doit être en relation avec la profession que nous avons de marcher avec Christ et être bien rachetés par le sang précieux de sa croix. Et le sang est appliqué aussi sur leurs vêtements, c'est-à-dire sur leur vie extérieure, sur leurs habitudes. De sorte que nous ne pouvons pas être heureux, en le rappelant en terminant, nous ne pouvons pas être heureux sans marcher dans la lumière. Et voilà les ressources pour le désert. La parole de Dieu, dont l'apôtre dira dans l'épître aux Hébreux au chapitre 4, que toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire, identifiant Dieu et sa parole de la manière la plus étroite. Et la parole découvrant le mal, afin que nous le jugions dans la lumière de Dieu et que nous nous en séparions. Dernière scène que nous pourrons voir ce soir, c'est au chapitre 20, puisque tout doucement l'heure avance rapidement. C'est au chapitre 20 que nous désirons lire une dernière scène ce soir d'Éléazar. Au chapitre 20 de ce livre des Nombres, nous avons au verset 23, « Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans la montagne de Hor, sur la limite du pays d'Édom, en disant, « Aaron sera recueilli vers ses peuples. » Car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Meriba. Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne d'or, et dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils, et Aaron sera recueilli et mourra là. Et Moïse fit comme l'Éternel avait commandé, et ils montèrent sur la montagne d'or aux yeux de toute l'assemblée. Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et on revêtit Éléazar son fils. Et Aaron mourut là au sommet de la montagne, puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron 30 jours. Ceux qui ont pu rendre compte des dispositions du pays de Judée et d'Israël ne vont pas d'affirmer unanimement que cette montagne, elle est abrupte, la montagne d'or. Une montagne qui donne une impression de mélancolie. Elle est déchiquetée, elle est abrupte, et elle ne découvre de son sommet que des déserts arides. Quel lieu sinistre que celui-là est bien en rapport avec ce qui se trouve devant nous, la mort de ce vieillard de 123 ans. L'Éternel n'avait pas été sanctifié aux eaux de Meriba. Nous nous rappelons bien de cette scène. Moïse, l'homme le plus doux de la terre, si l'on a bien compté, nous le trouvons se mettant en colère 7 fois. Et pourtant, quand Dieu parle de lui, il dit, c'est l'homme le plus doux de la terre. Mais au milieu de ce peuple rebelle et contredisant, à cause de vous, dit-il, dira-t-il, en rappelant ces faits dans le Deutéronome, à cause de vous, l'Éternel m'empêchait d'entrer dans ce beau pays de la promesse. Quoique Moïse n'aura rien perdu, nous le savons, mais ce n'est pas tant le sujet ce soir. Mais de toute manière, Moïse s'est emporté. Il fallait parler au rocher. Le rocher qui le suivait était le Christ. Pas opportun ni nécessaire, et il était hautement indésirable de frapper à nouveau le rocher, car il a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. Pas un sacrifice qui doit être répété, mais le seul sacrifice qu'il a fait a répondu à toutes les exigences de Dieu, a glorifié Dieu, et par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui se placent sous l'aspersion de son sang. Le rocher qui le suivait, qui les suivait au désert, était le Christ. Et il avait été frappé de sorte qu'il avait donné des eaux en abondance. par sa glorification, après sa glorification, il a, dit la Pierre, répondu ce que vous voyez et entendez. Il a envoyé de la part du Père l'Esprit Saint promis. Car Dieu a accompli sa promesse. L'Église étant encadrée entre deux promesses. La première, la descente du Saint-Esprit sur la terre, étant une chose accomplie, comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait. En quelque sorte, Luc, nous disons, comme il est écrit au livre de Lévitique, au chapitre 23, ce qui est annoncé, la chose s'est parfaitement accomplie. Une personne divine est descendue sur la terre pour attester qu'un homme est monté au ciel et qu'il avait été accueilli dans la présence de Dieu, par Dieu lui-même, qui l'a salué et lui a dit, je te salue, assieds-toi à ma droite sur mon propre trône. Un homme monté au ciel, sauveur, sauveur glorieux, s'est mesuré avec notre ennemi, avec la mort, avec la puissance la plus grande détenue par l'ennemi. Mais comme David autrefois dans la vallée des Là, prenant l'épée du géant et lui tranchant la tête et amenant la tête du géant au milieu du peuple, il n'y a plus rien à craindre de Goliath. Voilà, il est décapité, il a été tué par sa propre épée, il n'y en a point de pareil, dira David. Par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. De sorte que le Saint-Esprit descend sur la terre, personne divine, pour attester par des actes de puissance extraordinaires qu'un homme était monté au ciel. C'est la promesse par laquelle l'Église a commencé sur la terre, baptisée d'un seul esprit pour être un seul corps. L'Église se termine peut-être ce soir par l'accomplissement de la promesse que le Seigneur a faite aux siens, à nous. Et si je m'en vais, je reviendrai. Nous attendons la venue du Seigneur d'un moment à l'autre. Pas une. Nous avons à retenir cette vérité fondamentale, car le Seigneur n'est pas plus ressuscité en esprit qu'il n'est mort en esprit. Nous attendons le retour personnel du Seigneur. Lui-même viendra et vous sauvera. Quand je vous dis un mystère, dit qu'on ne nous endormirons pas tous. Mais nous serons tous changés. Et lorsque la trompette de Dieu sonnera, car la trompette sonnera pour nous, dans ses premiers effets, dans sa première manifestation, la fête de la trompette, la fête des trompettes de Lévitique 23, aura ses premiers effets pour nous, les croyants, les prémices, pour nous en aller au ciel, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, puis nous serons changés, et tous ensemble nous serons sur la nuée. C'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur qui scelle, qui marque la fin de l'Église lorsqu'elle sort au ciel. Eh bien, chers amis, nous attendons ce moment. Et le Saint-Esprit aura donc terminé son rôle lorsque nous allons partir tous ensemble, et nous allons voir le Seigneur être toujours avec lui. La mort a donc été vaincue. Mais, avec ce rocher dont nous parlions, c'est donc un type du Seigneur qui a été frappé une fois et qui ne devait pas l'être une seconde fois, par un seul sacrifice. Il a rendu parfait à perpétuité un sacrifice qui n'a pas besoin de se répéter. Et voici que Moïse, s'emportant, a frappé le rocher. Vous donnerons-nous de l'eau, rebelle, dit-il. Et il frappe le rocher. Ah, c'était la sacrificature qui pouvait accompagner le peuple et l'introduire dans la terre de la promesse. Et non pas l'autorité, non pas l'exercice du jugement. C'est une œuvre étrange, inaccoutumée, que Dieu exerce lorsqu'il est obligé de le faire. Et nous le disions l'autre jour, dans quelques années, le coupable sera sans excuse, car il fera prononcer la condamnation par le coupable lui-même. Exemple, la ville la plus méchante de tout au monde, la plus privilégiée, ils ont dit, venez, jetons l'or de la vigne. Le Seigneur demande, en parlant de cette parabole, que sera-t-il fait à ces vignerons qui ont jeté le maître, le fils du maître de la vigne, dehors, et qui l'ont tué? Ah, qu'est-ce-t-il? Oh, il viendra le maître, et il fera périr misérablement ces meurtriers-là. Vous avez prononcé votre condamnation. Tout à l'heure, Vespasien sera sur la scène. Encore quelques années, son fils Titus viendra faire périr misérablement ces meurtriers-là. Exemple si solennel du jugement de Dieu, partiel sans doute. Hein, plus d'un million de juifs ont perdu la vie. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Il avait vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. On vendait sur le marché d'esclaves à Alexandrie 30 esclaves pour une pièce d'argent. Et Moïse l'avait dit, il n'y aura pas d'acquéreur. Ils étaient envoyés dans les mines pour périr misérablement. Alors, chers amis, nous revenons à Moïse qui frappe le rocher et qui n'a pas sanctifié Dieu, de sorte que Dieu leur a dit, vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Aaron le premier est recueilli sur la montagne d'or, montagne abrupte d'Égypte, qui est bien le cadre qui répond à ce que la mort est notre ennemi implacable. Quelle ascension pénible pour Moïse. Il sait que maintenant, ce sera bientôt pour lui de monter sur la montagne du Pisga, comme il devait monter à pas lourd sur cette montagne d'or, avec Aaron les trois. Moïse, son frère Aaron, son neveu Éléazar. Et au sommet, Aaron est recueilli. Et ensuite, encore quelques mots, Moïse prend tous les vêtements et nous pouvons bien raisonnablement penser que pour la circonstance, Aaron avait revêtu ses vêtements de gloire et d'ornement. Et Moïse alors prend les uns ou les autres ses vêtements et en revêt Éléazar son fils. C'est toi maintenant qui va remplir la sainte fonction du souverain sacrificateur. Pour nous, il n'y a pas besoin qu'un jour cet office soit remplacé par qui que ce soit. Il a la sacrificature intransmissible, car eux, la mort, les empêchait de demeurer, mais lui, ayant vaincu la mort dans la puissance d'une vie impérissable, est assis à perpétuité à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Comme il nous a sauvés, rendus parfaits à perpétuité, parce qu'il est assis, ce grand vainqueur est assis à perpétuité, qui est ce roi de gloire, qui embrasse le ciel, lorsque le ciel en fait accueille cet homme, mais qui est ce roi de gloire, c'est l'Éternel, c'est Jésus, le roi de gloire, fort et puissant dans la bataille, qui entièrement défait l'ennemi, dont la défaite a été d'autant plus grande que sa victoire semblait acquise lorsque l'on a vu sur la croix de Jésus-Christ le corps inanimé. Apparemment, c'est fait une victoire totale de la part de l'ennemi, mais sa défaite n'en est que plus éclatante. De sorte que maintenant, nous n'avons plus à redouter, à craindre qu'il y ait un changement de sacrificature. Lorsqu'il y aura un changement de sacrificateur, c'est toujours la même personne qui l'exercera en sortant du ciel, comme Melchisédek. Car il est sacrificateur selon ce rang le plus élevé de Melchisédek. Considérez combien grand était celui à qui Abraham le patriarche a donné la dîme du butin. Et ce Melchisédek n'est qu'un type de la sacrificature et de celui qui, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, vit éternellement d'une vie impérissable au-delà victorieuse de la mort et à laquelle il nous associe pour l'éternité. Alors, Aaron se trouve là, enseveli, et nous assistons maintenant à la descente, Moïse et son neveu, Éléazar. Et en terminant, nous pouvons bien nous demander, que devait-il bien se dire? Le cœur rempli de chagrin, sans doute, car, sans doute, nous avons à connaître le deuil, nous vivons, nous sommes encore au désert, dans une scène où la mort exerce ses droits. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Que devait dire Moïse, cet homme de foi, à Éléazar, qui avait perdu son père? Que devait-il lui dire? Ah, la robe de bleu que tu portes, Éléazar. Ne nous annonce-t-elle pas que nous n'avons pas été faits pour le présent? Le présent ne nous suffit pas, car Dieu a planté en nous, au fond de nous-mêmes, ce qui est éternel, ce qui ne peut périr, le souffle de Dieu. L'homme n'a pas été fait pour le présent. Le présent ne lui suffit pas. Quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, saisis. En présent de l'éternité, il réalise que Dieu a écrit au fond de sa conscience ce mot solennel, éternité. Mais cette robe de bleu que tu portes, Éléazar, elle nous montre qu'un jour, nous allons suivre un chemin nouveau et vivant pour monter jusqu'au sanctuaire. Par l'Éternel, ne disait-il pas, Abraham, notre Père, Dieu, non pas nous pour pourvoira de l'agneau, mais se pourvoira de l'agneau. L'agneau en vertu duquel, l'agneau sans défaut et sans tâche, en vertu duquel il pourrait intervenir en faveur du pauvre esclave que nous sommes de Satan et de la mort, vaincu que nous sommes par une puissance plus forte que nous. Un jour, l'agneau sans défaut et sans tâche, qui sera offert sur l'autel, donnera à Dieu la suprême victoire et nous ouvrira le ciel pour y entrer. Car il nous a dit, la semence de la femme lui brisera la tête, et les phoques que tu portes, le bleu, la pourpre, l'écarlate, le fin coton à tort, nous parlent certainement des gloires de celui qui est annoncé déjà depuis le jardin d'Éden et qui viendra sur cette scène dont les vêtements sont un ouvrage d'art. Toutes ces gloires fondues ensemble dans la sainte humanité qu'il va revêtir, Dieu était en Christ, unissant la divinité toute puissante à l'humanité dépendante pour venir chercher, sauver ce qui était perdu. Et les hasards, les étoffes merveilleuses de l'époque sur laquelle il y a de l'or montrent que nous serons un jour établis en gloire, en justice devant Dieu, sur un fondement de justice impérissable, et que nous allons entrer au ciel pour connaître les joies infinies dont plus rien ne viendra troubler, là où il n'y aura plus ni cris, ni peine, ni larmes. Les premières choses seront passées, toutes seront faites nouvelles.